Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Prendre le large, c'est ce à quoi nous invitent ce matin les films dont nous allons parler, non pas par esprit de provocation, mais au contraire pour vous aider à reprendre votre souffle. Prendre le large avec Dialogue avec mon jardinier de Jean Becker, l'histoire d'un peintre parisien à succès qui trouve refuge à la campagne et retrouve un ami d'enfance, un jardinier plus philosophe qu'il n'y paraît. Prendre le large avec Green Book de Peter Farrelly, l'histoire d'un confinement fortuit d'une certaine manière sur les routes du sud d'une Amérique ségrégationniste entre deux hommes que tout sépare. Prendre le large avec Tree of Life de Terrence Malick, film hors norme qui nous donne à voir quelque chose de l'infini de nos vies, même étouffante. Prêt ? Respirez. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, nos deux compères, Louis-Marie Soler, toujours producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma de Radio Présence qui est à passer à travers le Covid. Bravo, Louis-Marie, bonjour.
On a eu beaucoup de chance, oui. Bonjour à tous, bonjour à vous Emmanuel.
Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, ces centres jésuites dans le sud-ouest, qui n'est pas avec nous en plateau mais par téléphone, puisqu'il s'est confiné volontaire dans les Alpes, m'a dit mon petit doigt, et du coup il ne peut plus rentrer à Toulouse pour l'instant. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Merci Paul d'être présent à votre manière. Alors il en faut des astuces aujourd'hui pour arriver à parler d'autre chose que du Covid, hein. Et pour essayer de prendre l'air, le cinéma à chaque fois nous fait voyager et là plus que jamais, il est le bienvenu. Premier film à l'affiche, donc Dialogue avec mon jardinier, c'est donc un film de Jean Becker avec deux grands acteurs français, Daniel Auteuil et Jean-Pierre Darroussin. On va écouter tout de suite la bande-annonce et puis on va en parler.
Je viens pour la place de jardinier.
On se connaît, non ?
Ça se pourrait bien, oui.
Oh putain ! Le gâteau !
À nos souvenirs.
Pourquoi t'es revenu t'enterrer ici ?
Bah ce trou, qu'est-ce que tu veux ? C'est mes racines, hein.
Et tu regardes jamais la télé, toi, ou quoi ? Les emplois, c'est comme les tigres. On n'a pour ainsi dire plus.
Qu'est-ce que t'en penses ?
C'est très bien. Sauf qu'on retrouve rien de ce que t'as sous les yeux.
Je voudrais te montrer quelque chose. La peinture.
Je le connais, celui-là. Il était sur des billets de 100 balles. Demain, je t'apporte un chou-fleur. Mais alors, le chou-fleur, bichonné, ni poudre, ni saloperie. Chou-fleur personnel. Est-ce que vous savez ce que c'est que le tzi ?
Le tzi ? Non.
Zi ! C'est japonais, non ?
C'est tout ce qui est faux.
Zi !
C'est-à-dire l'anti-vérité artistique. Comment elle est la voisine ? Comment elle est la voisine ? Écoute, tu me bassines, là. Elle est jalouse, ta femme ?
Elle a pas lieu.
T'as pas très bien compris, je crois. Je veux divorcer.
Mais pourquoi ?
Tu fais une ou deux bêtises, quoi. Enfin, juste des passades, surtout des modèles.
Et tu l'aimes toujours ?
Je crois, oui.
J'aimerais bien que tu me payes une des choses qui me tiennent à cœur.
J'en ai rien à foutre de la peinture. J'en ai marre de rester des heures devant une toile comme une vache devant une locomotive.
Elle va passer en dessous. Tourne la barque. Mais tourne, empoté ! Je
crois bien que j'ai jamais réussi des légumes aussi beaux. On dirait que ça leur plaît de voir leur jardinier couché près d'eux.
Et tu t'appellerais comment, toi, si t'avais le choix ?
Du jardin.
Et moi, alors ?
Du pinceau. Il pleuvra pas demain encore.
Ah, tiens.
J'ai dit demain. J'ai pas parlé de ce soir.
Voilà, Dialogue avec mon jardinier, donc, de Jean Becker. Alors, l'histoire, vous l'avez deviné. Je la précise, c'est donc un peintre à succès parisien qui se retire dans la maison de son enfance à la campagne, comme un certain nombre de Parisiens en ce moment. Et il embauche, il a pas la main très verte, donc il embauche un jardinier qui se trouvait un ancien ami de son école primaire, qui est un cheminot à la retraite. Et ça va être la rencontre de ces deux hommes, de deux univers, qui va faire cheminer, on va dire, le personnage principal, ou en tout cas ce peintre qui est joué par Daniel Auteuil. Louis-Marie, on reprend les bonnes habitudes. Qu'est-ce que vous diriez en complément de cette courte présentation ?
Mais vous avez tout dit.
C'est vrai.
Vous avez tout dit.
Bah
c'est
voilà.
C'est la
bien
patte.
À lundi.
c'est la patte de Jean Becker, son réalisateur, Jean Becker, dans ses films. C'est une constante. Une constante, c'est de montrer une France non parisienne, la France des petites villes rurales ou bien maritimes. C'est la France où il y a de braves gens. Il y a cette vieille France, quoi. Celle que souvent.
Chantait Charles Trenet.
Oui,
Douce
exact.
France,
oui, mais
non, pas que.
Si, si, mais il y a pas. C'est-à-dire que pour Becker, on est partout, sauf dans la métropole. Voilà, tout le reste, parce que dans son cinéma, ces petites gens sont le plus souvent méprisés, quoi.
J'ai vu, je fais une parenthèse, hein, comme quoi c'est quand même à la mode, que les éditions Privas avaient lancé une nouvelle collection, cette grande maison d'édition toulousaine, qui s'appelle, je crois, Loin de Paris, presque, ou quelque chose comme ça, donc honneur à la province. C'est donc joué par deux grands comédiens, Daniel Auteuil et Jean-Pierre Darroussin, chacun bien typé, qui sont aussi habitués à figurer Louis-Marie dans des films.
Ah ben ils sont capables de tout faire. Voilà. C'est-à-dire que là, on peut rien dire par rapport à leur performance.
Manon des Sources ou
oui,
autre.
Oui. Mais ils sont parfaits. Ils sont parfaits.
En province.
Ils sont parfaits. Daniel Auteuil incarne donc ce peintre bobo qui vient passer sa crise de la cinquantaine passée. Il revient dans son pays, quoi, dans la maison de son enfance, la maison de ses parents. Et vous l'avez dit dans le résumé, il va retrouver son vieux camarade de banc d'école avec lequel il a fait des bêtises. D'ailleurs, on revoit la bêtise. Et la bêtise, il faut dire que la bêtise est assez rigolote, puisque...
C'est un gâteau qui explose.
C'est un gâteau. C'est-à-dire que tous les ans, ils offrent à leur vieil instituteur un gâteau pour son anniversaire. Et cette fois-là, alors ils ne mettent plus qu'une seule bougie, parce qu'il est très âgé, donc ils ne vont plus mettre la kyrielle de bougie. Ils en mettent une, mais c'est une belle bougie qui explose.
Vous l'a déjà faite, vous, celle-là, parce que...
Non. Ils n'osent pas, parce qu'après, je les gifle.
Ah bon, d'accord. Voilà, parce que Louis-Marie, petit secret de fabrique, est aussi instituteur. Instituteur, c'est aussi, hein, dans l'imaginaire français, c'est comment dire ça, quelque chose de la France de province. Alors, quelques critiques. Les critiques sont partagées. Donc, il va falloir, messieurs, justifier votre choix. Le Parisien, oui, nous partons en campagne pour ce film. Nous saluons l'excellence de l'interprétation de ces deux anti-héros. Quant à Becker, Candide moderne, il a un vrai talent. On pourrait citer aussi Métro. Jean Becker signe un très joli long-métrage sur l'amitié doublée d'une réflexion sur le retour aux sources porté par un duo d'acteurs fabuleux. Mais alors tout de suite, si on bascule sur le journal Le Monde, sympathique, le projet pâtit d'une mise en scène paresseuse et d'un humour réchauffé et d'une enfilade de lieux communs. Je vais pas aller plus loin. Paul Dima, c'est entre autres vous qui nous avez suggéré ce film. Comment vous nous le présenteriez et vous nous le vendriez d'une certaine manière ?
Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le vendre, mais en parler, de fait, les critiques sont très partagées. Et je vois que des critiques très parisiens jugent de très haut ce film de cinéma, et le cinéma de Jean Becker en général, de cinéma de papa, et qui brasse un petit peu des caricatures de personnages. Alors, c'est vrai que les personnages sont un peu tranchés à l'excès. Il y a d'ailleurs les noms par lesquels ils s'appellent appuient un petit peu cet écart. Le jardinier, joué par Darroussin, appelle son copain peintre du pinceau, et il s'appelle lui-même du jardin. Faire plus simple, voire simpliste, c'est difficile. Mais on sent que, au-delà de ce regard, il y a une vraie complicité, amitié entre ces deux personnages que tout sépare. Quant aux références culturelles, culture rurale pour du jardin Darroussin, et culture artistique, musicale, peinture et milieu bobo parisien.
Alors,
malgré ces différences-là, et en raison de leur vieille amitié, puisqu'ils se redécouvrent, eh bien l'un va apporter à l'autre, se laisser toucher par l'autre, et il y a tout un cheminement au cours du film qui serait dommage
de balayer,
de caricaturer sous simplement ces plans-plans, c'est les valeurs passées, c'est le regret d'une France qui n'existe plus. Alors peut-être un peu,
alors juste
mais en même temps,
je précise,
est plutôt sympathique.
Je précise juste une ou deux scènes. Par exemple, Daniel Auteuil emmène son ami comment dire, au Louvre, hein, pour lui faire découvrir la grande peinture, et lui dire « oui, j'ai vu ça sur un billet de 100 balles », en montrant, je crois, un Delacroix, si je ne me trompe pas.
Et qui était aussi sur le calendrier de la SNCF et qu'il a gardé un an, puisqu'après, voilà, c'était plus valable.
Jean-Pierre Darroussin, lui, fait découvrir le tsi. Alors justement, on va écouter un passage sur le tsi. Le tsi, c'est, juste pour introduire quand même, c'est le bruit de la faux, hein, quand on coupe l'herbe. Là, c'est Daniel Auteuil qui était à une exposition et il retrouve une amie, on va dire une ex-conquête, on y reviendra après, parce que cet homme a des problèmes de couple. Et cette amie est accompagnée d'un critique d'art, c'est un peu le choc des cultures.
Ah bah t'es là ? Ah, je croyais que t'étais partie à la campagne.
Bah non.
Merci, c'est gentil. Jean-Étienne, je te présente un très bon ami artiste peintre. Voilà, j'ai été son élève. Et Jean-Étienne est photographe.
Enchanté.
Jean-Étienne me parlait des œuvres de Tony.
Ah oui ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, je trouve que Tony laisse enfin éclater son talent fondamental de coloriste. Ses noirs sont superbes. Mmh. Oui, exceptionnel de luminosité. On dirait du Caravage. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à vous suivre, mais vous allez sûrement m'éclairer dans tout ce noir. Ces noirs sont électrisés par de subtiles moirures. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est très clair. Mais comment faites-vous pour avoir un jugement aussi sûr ? Bah, c'est assez simple. Je regarde, j'analyse et je donne mon sentiment. Et le vôtre, alors ? Sur Tony ? Oh, j'aime beaucoup Tony, mais là, son expo... là, je sais pas. Je la trouve brumeuse, oui, c'est ça, brumeuse. Savez-vous ce que me disait un de mes amis récemment ?
Non,
mais j'ai hâte de le savoir. Eh bien, il me disait que quand il y a de la brume, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est un point de vue assez superficiel, limite primaire. J'en ai un plus exigeant, plus...
Tendance.
Oui, c'est de voir la couleur dans les plages de non-couleur. De voir dans le noir, non pas du noir, mais du non-blanc. Jean-Étienne, connaissez-vous le tsi ?
Le tsi ?
Non.
Tsi.
Le tsi. Il s'agit d'un nouveau mouvement et vous ne le connaissez pas ?
Si, si, bien sûr, j'en ai entendu parler. C'est
japonais, non ?
Ah non, 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 pas du tout. Non, non, le tsi, c'est tout ce qui est faux. Faux, vous voulez dire l'anti-vérité artistique ?
Pas du tout. Faux comme une faux. Le tsi, ça coupe, ça éradique, ça élimine tout ce qui est inutile. Les mauvaises herbes, les parasites. Tout, quoi. Vous comprenez ?
Ah oui, je comprends.
Bon, bah alors, je vais vous laisser. J'ai rendez-vous. Magda, on s'appelle. Et merci de m'avoir présenté ton ami, monsieur.
Du pinceau.
Du pinceau. Oui, du pinceau, comme du jardin, du maçon, ou du con.
Ah, le rire, c'était pas dans le film. C'est l'humoriste.
C'est moi, ça. C'est drôle quand même.
C'est drôle.
Caricatural,
c'est
mais drôle.
Dialogue avec mon jardinier, donc de Jean Becker. Paul, excusez-moi, je vous ai coupé la parole un peu sèchement parce que comme on se voit pas, j'arrivais pas à poser ma question. Mais si on prolonge, je le disais en introduction, cet ami jardinier qui paraît naïf et plus philosophe qu'il n'y paraît, est-ce que si c'est un conte à sa manière?
Oui, alors, c'est un philosophe frappé au coin du bon sens, même si les deux mots font pas bon ménage habituellement. Il n'empêche que ce monsieur qui sort pas jamais de chez lui, quand il sort de chez lui, c'est pour revenir au même endroit. Il y a deux voyages annuels qui sont... on change pas parce que c'est bien, voilà. Donc, mais il a un vrai savoir-faire de son métier de jardinier, de sa compétence du rapport à la nature, et puis une forme de simplicité, où il dit, sans faux-semblant et sans discours empoulé, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et ça décape un peu son... Et ça change, ça le décape pas seulement, ça change son ami peintre. Et on le voit bien dans cette scène de vernissage d'une expo de tableaux noirs. Alors, c'est pas des tableaux de Soulages, mais...
On allait presque lancer la pique, mais vous l'avez fait, Paul. C'est fait.
Oui.
Mais il n'y en a qu'un comme ça.
Continuez. C'est pas une émission sur Soulages.
Il n'y en a qu'un seul comme ça dans l'expo.
Il met en boîte un ami d'une de ses conquêtes, qui se pince d'être très bon connaisseur d'art, et il lui renvoie, enfin il le ridiculise complètement avec ce que lui a appris son ami jardinier, le zip de la faux quand elle fauche toutes les mauvaises herbes et tout ça, et il le met en boîte de cette façon-là. Mais au-delà de cette anecdote, on voit aussi que le peintre est amené à se poser des questions que peut-être il a toujours un peu éludées, et à acquérir une autre philosophie de la vie.
Et ben voilà, Dialogue avec mon jardinier, c'était donc le premier film de ce matin de Jean Becker, à voir et à revoir. C'était pas le film à l'affiche du mois, puisqu'il n'y a pas de ciné-parole, j'ai oublié de le dire en introduction, vous êtes tous les deux les animateurs d'un ciné-club au cinéma L'ABC, ce cinéma d'art et d'essai à Toulouse, qui doit d'ailleurs en baver comme d'autres en ce moment, mais ciné-parole reprendra dès que possible, peut-être même le mois prochain, on verra, on vous tiendra au courant. On fait une première pause musicale, et puis on vous retrouve pour parler d'un autre film, c'est notre chef-d'œuvre humaniste du mois, Green Book. Vous vouliez introduire la musique, Louis-Marie ?
Ah ben, il y a une très belle musique dans Dialogue avec mon jardinier, parce que en plus de la façon de traiter les paysans, ils sont pas capables d'écouter de l'opéra ou de la musique classique, mais ils l'aiment quand même. Et il y a effectivement de la belle musique et une musique qui émeut à la fois le peintre et le jardinier. Cette musique, c'est Mozart.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce vendredi. De reprise, de début, de déconfinement, eh bien on essaye de prendre l'air justement, maintenant qu'on peut le prendre davantage, avec nos deux messieurs cinéma fidèles au rendez-vous et qui sont passés à travers le Covid-19. Louis-Marie Solaire, producteur de N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma de Radio Présence, pour rappel le mercredi de 19h à 20h, si vous ne l'avez pas déjà écouté, il est temps, et Paul Diemin, intervenant cinéma pour les Côtes Opaïs, ces centres spirituels jésuites dans le sud-ouest dont on parle de temps en temps dans cette émission, qui lui est à plus de 100 km de Toulouse et donc encore confiné d'une certaine manière dans les Alpes. Deuxième film, Green Book. C'est donc, on va découvrir ce que veut dire Green Book, film de Peter Farrelly. On écoute tout de suite la bande-annonce.
Ouais. Il y a un gars qui vient d'appeler, un docteur, il cherche un chauffeur. Ça t'intéresse ?
Je ne suis pas docteur en médecine. Je suis musicien, je suis sur le point de partir en tournée dans le sud profond. Quel genre d'expérience avez-vous ?
Les relations publiques ?
Verriez-vous un inconvénient à travailler pour un noir ?
Vous, dans le sud ? Ça va causer des problèmes.
Promets-moi que tu m'écriras.
C'est promis.
Dites pas que ça sent pas bon, ça.
Je n'ai jamais avalé de poulet frit de toute mon existence.
Même les gens comme vous adorent le poulet frit.
Vous avez une vision de moi plutôt étriquée, Tony.
Ouais, je sais. Je suis un malin.
Nous allons fréquenter les personnes les plus riches du pays. Alors je pense que vos manières gagneraient à être plus raffinées.
Oh non, mais pourquoi vous me les voyez menus?
Parce que vous valez mieux que ça, monsieur Vallelonga.
Cher Dolores.
J'ai vu Dr. Shirley jouer du piano. C'est un génie, je crois.
Tenez, mangez un bout.
Je préfère ne pas mettre de gras sur ma tenue.
Ouh, je veux pas mettre de gras sur ma tenue.
Ce monsieur dit que je ne peux pas dîner ici.
J'ai bien peur que non. Comment il fait pour rester aussi aimable?
Il faut du courage pour changer le cœur des gens.
Qu'est-ce que vous faites?
Une lettre.
Je peux voir. Cher Dolores, des fois tu me rappelles la maison. Vous êtes conscient que c'est lamentable? Prenez note. La distance qui nous sépare dévaste mon âme. Tomber amoureux de toi
a été la chose la plus facile du monde.
PS, embrasse les gosses.
C'est comme klaxonner à la fin de la 7e de Shostakovich.
Et c'est bien?
Parfaitement bien, Tony.
Sortez des voitures!
On ne gagne jamais grâce à la violence. On ne gagne qu'en gardant sa dignité.
Vous connaissez pas les vôtres? Vous, monsieur, je me la pète qui fait des concerts pour les Rupins.
Si je suis pas assez noir et aussi pas assez blanc, alors je suis quoi? Dites-le moi!
Tout le monde peut faire du Beethoven. Mais votre musique, ce que vous faites, vous, il n'y a que vous qui pouvez le faire.
Et que fait-on avec les restes?
On fait ça.
Ramassez, Tony.
Les écureuils le boufferont, de toute façon.
Voilà, Green Book, très beau film, très heureux d'en parler. Alors, c'est une bande-annonce qui dure, donc on a compris à peu près l'intrigue, mais je vais quand même la resituer. Ça se déroule aux États-Unis, c'est encore la période de la ségrégation, et un certain Don Shirley, qui est un homme qui a existé, un pianiste donc de talent, presque un génie, hein. Un excentrique pianiste noir d'origine jamaïcaine qui est homosexuel et qui part donc en tournée dans le sud, on va voir pourquoi, et qui est accompagné d'un certain Frank Vallelonga qui est surnommé Tony Lachach, plutôt costaud et qui sait coller des baffes quand il faut. Et ils sont accompagnés d'un livre qui s'appelle Green Book. Alors là, je vais vous laisser continuer de présenter en nous expliquant ce qu'est un Green Book à l'époque, Louis-Marie Salaire, puisque film qui est fondé sur une histoire vraie ou presque.
Alors, il est fondé sur une histoire vraie puisque c'est l'adaptation d'un livre, mais ce Green Book a réellement existé et le titre entier de ce livre était Negro Motorist Green Book. C'était le guide de voyage américain qui permettait aux Noirs de voyager et de savoir à quel endroit ils pouvaient s'arrêter pour faire étape, puisque tous les établissements ne les recevaient pas. Ainsi,
et en général, c'était pas dans les plus grands hôtels.
Rarement, c'était rarement. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il porte, pourquoi Green? Ça n'a pas à voir avec la couleur, même s'il était vert, mais c'est le nom de son auteur. Et le prénom de l'auteur, il s'appelait Green et son prénom, c'était Victor Hugo.
J'ai pas suivi.
Son prénom, c'était Victor Hugo.
D'accord.
Victor Hugo Green.
Donc en tout cas, ils sont avec ce livre de façon à pouvoir voyager dans les motels et autres restaurants donc, du sud des États-Unis. C'est aussi une plongée voilà, dans une époque hein, qu'on ne connaît pas forcément bien, sauf à avoir vu d'autres films ou lu un peu de littérature, comme Faulkner, par exemple. Allez, on se lance tout de suite peut-être dans les qualités de ce film qui a été primé, hein, Louis-Marie Salaire. J'ai vu nombreuses récompenses, dont trois Oscars, dont celui du meilleur film.
Oui, et Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour j'ai toujours du mal à dire son prénom, Mahershala Ali, qui interprète Don Shirley.
Paul Dima, ce film, c'est un très beau film, c'est pas moi qui dirais le contraire. Comment vous continueriez de le présenter? Allez-y, quand même, je vais citer deux, trois critiques. Télérama, une ode subtile à la tolérance et aux artistes. Les cahiers du cinéma, ce récit d'amitié si simple et si touchant, cet American rêvé des marges et des communautés amies. Le Figaro, Peter Farrelly plonge dans l'Amérique de la ségrégation en mettant en scène un duo d'acteurs formidables. Paul Dima.
Alors non seulement il met en scène un duo d'acteurs formidables, mais il, à partir d'une histoire vraie, il campe deux personnages qui sont aux antipodes de la réalité ségrégationniste de cette période-là. C'est-à-dire que c'est le noir qui est raffiné, distingué, cultivé, et qui embauche un blanc dont vous avez parlé un petit peu, Shirley, qui est plutôt un videur de cabaret.
Vallelonga.
Non, pardon, Tony Lip.
Videur de cabaret, oui.
Qui est dans les relations humaines, c'est ce qu'il dit.
Oui, relations humaines à coups de poing dans la gueule.
Exactement.
Et qui est rustre, pas cultivé au sens culture reconnue. Et le jeu, c'est que le pianiste, qui est génial, est reconnu comme pianiste, mais est prié d'aller manger ailleurs et d'aller dormir ailleurs quand on considère comme un noir. Donc il est reçu pour des concerts particuliers dans la haute société du sud des États-Unis.
Et parfois il est obligé d'aller dans les toilettes quand même qui lui sont réservées.
Mais on le prie d'aller ailleurs et on lui refuse l'accès aux tables, etc.
Donc... Alors... Parlez-nous un peu de ce qui se joue entre ces deux personnages. Il y a, on va dire, quelques échos avec le premier film. Chacun d'entre nous, ça nous fait rêver en fait que parfois les circonstances de la vie qui nous sont imposées se transforment en une belle occasion, en une bonne nouvelle. On peut espérer que ça a été le cas pour certains à l'occasion de ce confinement. Est-ce que c'est là en fait le nœud de l'intrigue, ce rêve qu'on a tous au cœur?
C'est-à-dire que c'est ça, oui. Le fait d'être tous les deux dans la même voiture, d'être confrontés après aux péripéties qui se jouent à chaque représentation ou à chaque arrêt, vont faire qu'ils vont progressivement se découvrir et s'apprécier. Et le latino américain, Tony... lui apporte une vitalité à laquelle ce docteur Shirley rigide n'est pas habitué. Et puis, en même temps, Tony va devenir plus subtil parce que le docteur Shirley va l'inviter à exprimer ses sentiments, à être moins injurieux, moins coup de poing à tout bout de champ, etc. Donc, il y a une bonification réciproque qui est très intéressante, qui est très belle.
On va écouter un premier extrait. Ils roulent dans cette voiture puisque eux, leur confinement d'une certaine manière, c'est qu'ils passent un temps fou dans cette voiture pour sillonner le sud des États-Unis. Ils sont contraints de passer du temps ensemble. Et voilà ce qui se passe parfois quand on est contraint de passer du temps ensemble. Là, la scène, je l'introduis parce qu'elle peut être difficile à comprendre. Tony, on l'a pas dit, en fait, a, on va dire, un estomac probablement deux fois plus important que celui de la moyenne. C'est-à-dire comme ça, parfois, qu'il ramène des sous en faisant des concours de hamburgers dans son quartier d'Italien, qu'il gagne toujours. Et là, il se gave de poulet frit et le docteur Shirley fait la fine bouche, dans un premier temps.
Non, c'est seulement... contraire aux lois de l'hygiène.
Détendez-vous, profitez. Comme mon père dit toujours, quand tu fais quelque chose, fais-le à 100%. Quand tu bosses, bosse. Quand tu rigoles, rigole. Quand tu manges, mange comme si c'était ton dernier repas. Vous voulez un autre morceau? Tenez, un bout de blanc, c'est délicieux. Prenez, voilà.
Qu'est-ce que nous allons faire, des os?
Voilà ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait des os. Plein de bonnes choses.
When you see the money gone.
C'est quoi le problème, Doc?
Les écureuils l'auraient mangé.
Ramassez, Tony.
La nature prend soin de la terre.
Ramassez.
Oh, la vache.
Voilà, Green Book. Donc ça, c'est un extrait. Je pense que vous avez compris. La glace fond petit à petit. Louis-Marie Salaire, est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire pour nous persuader que c'est un très beau film?
Ah, c'est un film magnifique parce que ce qui oppose et qui rassemble finalement ces deux personnages, c'est qu'ils sont tous les deux malheureux d'une certaine façon. Dans leur condition, leur permet pas d'exister pleinement. Et en fait, au bout d'un moment, comme l'avait souligné Paul, l'image au moment de la ségrégation s'inverse, puisque c'est le noir qui est cultivé, le blanc qui est rusto. Et avec les problèmes qu'ils rencontrent tous les deux, finalement, au bout d'un moment, on oublie complètement ce qui les sépare et la couleur de leur peau. C'est ça qui est fort dans le film.
Alors, il faut dire aussi pourquoi ils sont malheureux dans ces cas-là. Il y en a un, en fait, qui sent bien qu'il est un peu empâté et limité, on va dire, dans sa vie, et puis
il est heureux dans sa vie familiale, il aime sa femme, il aime ses enfants. Et les enfants, il est italo-américain, c'est une vie difficile. Non, il est malheureux parce que...
Il a un complexe, quand même.
Il a un complexe par rapport à ce qu'il fait, et puis il y a aussi le fait qu'il faut gagner de l'argent pour faire manger sa famille, et c'est compliqué. S'il est sur la route là, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Sinon, il serait resté avec sa femme et ses enfants, parce qu'en plus, la tournée risque de lui faire rater Noël. C'est très ennuyeux, surtout pour une vie de famille comme la sienne. Et une autre chose, on parlait tout à l'heure, finalement, avec dialogue avec mon jardinier, c'était la confrontation de deux milieux différents de la même façon. Et de la même façon, Peter Farrelly, le réalisateur de Green Book, eh bien, le registre de son film est classique, de la même façon, humble, limpide. Il ne surplombe pas les personnages et celui-là est beaucoup plus réussi que l'autre. Ah, et pourtant, la démarche est la même.
Alors, je vous avais pas demandé de flinguer le premier, hein, mais bon.
Non, mais.
On va écouter. Non, je plaisante.
Je voulais pas le flinguer. Il y avait des motifs de comparaison.
On va écouter un deuxième extrait. Cette fois, c'est le docteur Shirley qui fait faire du chemin à Tony. J'oublie son surnom, Tony Lachatch.
Tony Lip.
Tony Lachatch. Ils ont été emprisonnés parce qu'une fois de plus, Tony a eu du mal à se retenir d'en coller une. Et en l'occurrence, il en a collé une à un policier.
Pour reprendre l'expression de ma mère, est-ce que vous êtes devenu fou? Regardez bien ces gars. Jetez un œil à l'officier que vous avez cogné. Regardez-le. Il est là à parader en racontant ses arrestations, pendant qu'il avale une tasse de café. Et vous, vous êtes où? Assis là, avec moi, qui n'ai rien fait. Du coup, c'est moi qui en fais les frais, car c'est moi qui ne serai pas à Birmingham pour la représentation.
Et moi, je vais aussi perdre de l'argent si vous jouez pas à Birmingham.
Alors, ce petit accès de colère, ça valait tout ça? On ne gagne jamais grâce à la violence, Tony. On ne gagne que si on peut garder sa dignité. La dignité l'emporte à chaque fois.
La dignité l'emporte à chaque fois. Paul Dimain, ce qu'il y a de beau dans ce film, c'est non seulement deux hommes qui se découvrent, qui se font grandir mutuellement, mais c'est aussi qu'on rentre, on va dire, dans une histoire, hein, l'histoire de la ségrégation des États-Unis, et petit à petit, les deux deviennent des héros de cette période quand certains n'en étaient pas.
Oui, tout à fait. Ce film, avec ses côtés comiques, n'en est pas moins une dénonciation de l'hypocrisie, de la ségrégation qui a cours à cette période-là des États-Unis. Et en présentant des personnages aux antipodes des représentations courantes de l'époque, il y a un choc qui se produit là. Et on voit que ces deux personnages que tout pouvait opposer, et il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour que ça dérape, vont grandir ensemble. C'est-à-dire que Shirley va s'ouvrir un petit peu au côté populaire, lui qui est coincé et peut-être malheureux aussi, tout seul dans son homosexualité, qui n'a pas de copain, etc. Tony, par son exubérance et tout ça, l'entraîne dans un courant de vie dont il s'est mis un peu à distance. Voilà. Et de l'autre côté, c'est l'autre chemin qui se fait. Et on l'a bien vu dans l'extrait précédent où le pianiste invite Tony il lui demande de ramasser, parce qu'il jette par la fenêtre les os de poulet, lui, le chauffeur, et puis balance aussi son gobelet en plastique ou en carton, je ne sais pas trop, et le pianiste lui demande de reculer et de ramasser le carton, parce qu'il faut respecter la nature. Donc, c'est le choc de deux mondes qui s'apportent chacun leur valeur et qui ouvrent l'autre à ce qu'il ne connaît pas.
Green Book, voilà un chemin de, on va dire, de confinement. Le mot est à la mode, je l'utiliserai pas tous les jours, mais un peu fortuit. Et l'amitié mène d'une certaine manière à la vérité, hein, aussi à faire de vérité pour chacun et à la vérité, en tout cas, en ce temps qui était ce temps si particulier des États-Unis. Green Book de Peter Farrelly. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour parler du chef-d'œuvre spirituel du mois. En l'occurrence, c'est Tree of Life, The Tree of Life de Terrence Malick. Vous pouvez introduire lui, Marie. Là, c'est la musique de Green Book encore. Hein.
Ah, c'est la musique de Green Book. On écoute bien sûr de la musique classique et du jazz aussi. Il est plus musicien classique d'ailleurs, le Dr. Shirley, que concertiste, mais évidemment la couleur de sa peau ne l'a pas aidé. Il n'a pas pu accéder aux plus grandes salles. Et donc on écoute une bande originale extraordinaire qui donne un relief de cette musique noire américaine de l'époque, et en particulier celle du jazz. On ne saurait trop vous conseiller de voir le film dans sa version originale parce que Tony Lip, Viggo Mortensen, l'acteur, a un accent italien à couper au couteau. Il est extraordinaire de drôlerie. Et là, on écoute un grand pianiste et un grand jazzman, Dave Brubeck.
Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce vendredi. C'est une émission cinéma avec Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas Louvreuse, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, ces centres spirituels jésuites dans le sud-ouest. Troisième film, donc, le chef-d'œuvre spirituel du mois, c'est donc The Tree of Life de Terrence Malick. On va écouter la bande-annonce. Alors attention, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais c'est normal, c'est un film hors norme, on va en parler.
Que cet arbre soit adulte. sait faire pour s'en sortir dans ce monde. Allez, cogne-moi. Cogne-moi. Allez, fils.
Il a peur de toi. Tu lui demandes des choses qui ne peuvent être réalisées que par un adulte.
Tout ce que je voulais, c'est que tu sois fort, que tu sois ton propre patron.
Voilà, la bande-annonce donc de ce film. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire, je vous laisserai le présenter davantage, je vais lire quelques critiques. Les critiques. Le journal La Croix, le récit ne s'offre pas de manière concrète et linéaire, mais sous la forme d'un long et magnifique poème, empreint de mysticisme, traversé d'images sublimes, baigné de nature et à l'affût de la grâce. Le Monde, The Tree of Life, le cinquième film de l'Américain attendu depuis si longtemps, on en reparlera, est d'une présomption tour à tour effrayante, dérisoire et bouleversante, un objet d'une difformité cosmique qui peut diviser un public et même un spectateur. Et Télérama, Terrence Malick fidèle à lui-même, livre un film monument qui s'égare dans un symbolisme fumeux. Louis-Marie Soler, si vous deviez juste essayer, je dis bien essayer, de nous dire de quoi ça parle, avant qu'on commence.
Ben, il raconte l'histoire du monde. Il raconte l'histoire du monde, la présence...
All simply.
Oui, la présence divine, omnipotente, et le destin d'une famille américaine. Tout ça pendant les années 50. Pour la famille américaine. Pour le reste, évidemment, la création du monde, ça commence par le début.
La famille américaine, on peut en dire un peu plus sur le père, la mère, les relations à l'intérieur de...
Le film commence par une citation du livre de Job. Hein, je peux même vous dire le chapitre, je l'ai noté. Le chapitre 34, c'est cité. De toute façon, j'ai aucun mérite. Où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre? C'est une question à laquelle Terrence Malick répond. Il répond au même moment dessous et il est écrit là, sur place, regardez, j'ai les images. Et c'est comme ça qu'on commence. Et c'est là-dessus aussi qu'il a été un peu attaqué, parce que ces images de création du monde, d'autant quand vous disiez que le film a divisé, c'était l'alternance de ces images créées de toutes pièces, fabriquées par ordinateur.
Même s'il paraît qu'il y en a eu très peu, enfin, au final. Hein.
Certes, mais en tout cas, il a pâti avec ces images, il a pâti de la comparaison avec Stanley Kubrick, en particulier avec 2001, l'Odyssée de l'espace, et avec Tarkovsky aussi. Après, pour le reste, c'est pour ça que vous disiez qu'il a divisé la critique, c'est sûr, parce que d'un côté, on pouvait crier au génie, et de l'autre, on criait au génie, on disait que le film était magnifique, probablement le plus beau film de Malick, et d'autres qui parlaient d'une obsession mystique proche d'une propagande New Age. Vous voyez, c'était là-dessus qu'on s'écharpait.
Le film a en tout cas reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2011. Paul Dima, vous m'avez laissé entendre que vous aviez été tour à tour pris devant la fascination, je reprends la citation du journal Le Monde, un film tour à tour effrayant, d'une présomption effrayante, dérisoire et bouleversante.
Oui. J'aime bien aussi des critiques qui ont dit on est là devant un poème, un long poème auquel on ne comprend rien, sinon qu'il suffit d'un mot, d'un vers pour que tout s'éclaire. Et ce film est un poème visuel qui manie à la fois les origines du monde, avec la citation du livre de Job que Louis-Marie a rappelé, « Où étais-tu quand j'ai fondé ?» Et alors là, dans le film, il y a un déploiement extraordinaire d'images qui montent aux origines, et l'infiniment grand, les astres, les satellites au sens de astres, voilà, et l'histoire très intimiste d'une famille d'une famille américaine dans les années 50, une famille dont on pourra reparler.
Alors justement, avec un destin est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, Paul, justement, parce que Intimiste, il y a aussi une manière de filmer souvent quand même d'assez près. On entend aussi une voix off, donc on est à la fois dans l'immensément grand et l'immensément intime.
C'est ça, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire, il y a un va-et-vient où il y a un mélange de, au cœur de l'intime se révèle quelque chose de l'infiniment grand, et l'infiniment grand éclaire quelque chose de l'intime. Et on assiste aux premières années de vie d'un couple avec l'arrivée du premier enfant, puis des deux autres enfants, et on suit leur entrée dans la vie, le lien entre les parents, enfants, et puis on voit que petit à petit, il y a des dérives qui se font, un père qui devient de plus en plus exigeant et rigide. Et puis, alors, je ne sais pas s'il faut raconter toute l'histoire de la famille, ça serait trop long, mais on voit qu'il y a une distance qui se crée et que le rapport à la nature est toujours quelque chose qui est sous-jacent, comme un lieu pour ne pas oublier qu'on appartient à ce monde et qu'il est porteur de vie, même si c'est en tension, comme dans le livre de Job, c'est-à-dire que le malheur peut arriver, mais l'interrogation continue et la vie continue, et il y a un appel à dépasser les limites dans lesquelles on s'enferme.
Alors Paul, on va écouter justement un autre extrait pour faire écho à votre propos. Il y fera écho assez naturellement.
Les religieuses nous ont appris qu'il y avait deux chemins pour traverser la vie. Le chemin de la nature et le chemin de la grâce. On doit choisir lequel suivre. La grâce ne cherche pas sa satisfaction. Elle accepte d'être ignorée, oubliée, rejetée. Elle accepte les insultes et les coups. La nature, elle, ne pense qu'à sa satisfaction.
Bénissez, Seigneur.
Et à convaincre les autres d'y œuvrer aussi.
La grâce de vous servir avec amour et fidélité.
Elle aime les traiter avec arrogance.
Bénissez ces garçons.
Imposez sa volonté.
Voilà pour l'extrait. Louis-Marie Soler, parlez-nous un petit peu de Terrence Malick. Beaucoup doivent le connaître. Et de cette œuvre au sein de la carrière de ce cinéaste hors norme.
Ah oui, il est particulier, Terrence Malick, dans la façon qu'il a eu de gérer sa carrière. Puisqu'il a commencé par faire des films et a arrêté d'en faire pendant plus de 20 ans. On s'est même demandé ce qu'il était advenu de lui. Même demandé s'il n'avait pas disparu, puis il est revenu. Donc pendant un long moment, il a fait peu de films, et puis à nouveau, il en refait assez rapidement, puisqu'il y a un film qui est sorti l'année dernière, en 2019, et il est en préparation déjà un autre film. Donc vous voyez, entre 20 ans d'écart et puis maintenant un an, il est passé à un travail quand même, une façon de travailler beaucoup plus rapide. Il est devenu le cinéaste de la nature et une espèce de philosophe de l'univers.
Il est philosophe d'ailleurs, j'ai vu, oui. C'est sa formation. Hein.
A habité aussi par la religion, il porte tout ça. Et il faut dire que ce film, The Tree of Life, était très attendu parce que c'était un moment où il était revenu après cette période de longue absence. Et c'était pas le premier film qu'il avait fait après cette absence longue, mais on attendait ce film parce qu'il y avait tout ce qu'il était, lui, on l'attendait avec impatience, un film qui aurait dû être à Cannes en 2010, mais qu'il n'avait pas réussi à monter dans les temps, parce que le film est long, mais à l'époque, il était encore plus long que ça, et il a travaillé à des ciseaux pour arriver, il n'était pas satisfait des différents montages. Au début, le film durait plus de 3 heures. Là, on est un peu moins, c'est une durée plus raisonnable, et on retrouve effectivement ses préoccupations et ce qui est profondément cet homme.
Paul Dima, pourquoi c'est un chef-d'œuvre selon vous ? Parce qu'il a le courage peut-être aussi d'essayer de donner à voir. On se dirait normalement c'est la caractéristique de l'art, de la peinture et du cinéma particulièrement, mais de donner à voir ce qu'on ne voit pas. Est-ce que ça pourrait être résumé comme ça ?
Oui, et je crois qu'on touche là à parce que le cinéma en lui-même, par les images, un langage universel, capable de provoquer des émotions avec des images, peut-être plus qu'avec des mots, où c'est le mélange des deux qui atteint. Il ne s'agit pas de montrer l'invisible, mais c'est pas Malick qui dit ça, je ne sais plus quel cinéaste, je crois que c'est un italien. Il ne s'agit pas de montrer l'invisible, mais de montrer qu'il y a de l'invisible par ce que l'on montre. Et c'est très fort. Là, il y a une dimension spirituelle très claire chez Malick, et voire mystique. On le retrouve d'ailleurs dans le film qu'on avait présenté l'année dernière, Une vie cachée, qui racontait l'histoire qui mettait en scène, l'histoire véridique d'un opposant au régime nazi qui a été exécuté en restant fidèle à ses convictions. Et la façon de Malick de filmer la nature, aussi bien dans ce film, ça, Tree of Life, que dans Une vie cachée, est porteuse de ce regard mystique et philosophique, mais mystique aussi, et clairement référencé à la foi chrétienne.
Redonnez-nous la citation pour finir que vous avez donnée, la citation donc, du cinéma, en tout cas ce qu'on peut en dire.
C'est, l'art du cinéma ne consiste pas à montrer l'invisible, mais à montrer par les images qu'il y a de l'invisible.
Et ben
c'est-à-dire
voilà.
Que l'image devient icône médiation qui renvoie à plus que ce que l'on voit et pourtant ne peut se passer de ce que l'on voit.
Merci beaucoup à vous deux de cette émission. Je rappelle les 3 films de ce jour, Dialogue avec mon jardinier de Jean Becker, Green Book de Peter Farrelly et The Tree of Life de Terrence Malick. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.